Chapitre 7. À mesure que nous dérivions vers l'été, une sourde agitation troublait notre intérieur de remous inquiétants et parfois de brusques tempêtes. Il était de règle que chaque année, on passât la saison chaude à la montagne ou au champ, assez loin de notre ville. Nous courions les bois, maman et moi, jusqu'au milieu de septembre. Mon père nous rejoignait pendant une quinzaine de jours pour se reposer, puis regagnait son bureau, ses paperasses et l'héroïsme de M. Godferneau. À la rentrée, chacun se plaignait de la station choisie, et l'on décidait que l'an prochain, on tâcherait de trouver mieux. Mais cette fois-ci, on s'entendait plus mal encore que de coutume. Mon père avait décrété que nous irions demeurer avec les Trémelas dans un petit village de Savoie. Nous avions accueilli ce plan avec une explosion indignée, et maman avait déclaré aussitôt que jamais elle ne partirait dans ces conditions-là. Mais mon père l'avait regardée et avait dit simplement « Tu passeras l'été avec Irma, tu entends? Je ne veux pas que tu restes ici, et je n'entends pas non plus que tu sois seule avec Léon. » Et à ma grande surprise, maman n'avait rien répliqué. Depuis, de continuelles allusions envenimaient les heures de repas. Ma mère ne manquait jamais une occasion de lancer quelques flèches désagréables à l'adresse de sa belle-sœur. Si mon père me faisait une observation sur ma manière négligée de me tenir à table, maman, d'une voix douce, tout en enroulant autour de l'index une bouclette de sa chevelure, répondait « Oh, c'est inutile de vous donner tant de peine, vous verrez comment il sera quand il aura passé 2 mois avec ses cousins. » Mon père ne répondait rien ou éclatait en de brusques colères dont sa compagne se réjouissait tout bas. Il y eut un nouvel incident. Ma mère perdit la clé de la boîte aux lettres qui, dans le corridor de la maison, contre le mur, prenait un petit air digne de tombeau des secrets. Cela parut l'affecter, et elle demanda à son mari de lui prêter la sienne, au moins pour quelques jours. Il refusa. « Mais s'il y a une lettre pour moi, je te la monterai à midi. De cette façon, si elle y est, quand vous vous en irez, je l'attendrai 4 heures. Pour les lettres que tu reçois, tu pourras bien attendre un peu. Qu'est-ce que cela vous fait de me prêter la clé? Mes lettres sont plus importantes que les tiennes. Vous recevez les vôtres au bureau. Enfin, je l'entends ainsi. Je suis le maître, peut-être. » Maman, dans son boudoir, eut une crise de larmes. Tout le monde lui en voulait. Il lui faudrait passer l'été avec sa belle-sœur. Son mari ne cherchait qu'à la vexer. Mais cela n'était rien encore. Je crus que maman allait de suite commander une clé au serrurier. Elle n'en fit rien. Et quelques jours après, elle disait « Je n'ai pas fait faire de clé, je n'en ai pas besoin en somme. Seulement, quand vous en trouverez une, le matin, sonnez, Élise ira la chercher. » Mon père eut l'air très rassuré par cette phrase et montra un plaisir peu en rapport avec une proposition aussi simple. Et voici qu'au début de juin, je revois, comme si j'y étais encore, cette journée lourde, grise, brûlante. Les nuages formaient un ciel fermé, uni, morne, un ciel sans issue, sous lequel courait un vent tropical qui soulevait des tourbillons de lumière. Quelque chose d'électrique et d'angoissant pesait partout. Voici qu'au début de juin, dis-je, mon père rentra un jour, à midi, si pâle, si bouleversé, que nous eûmes tous deux, maman et moi, le pressentiment d'un malheur. Il traversa la salle à manger sans rien nous dire et gagna sa chambre pour changer de veste. « Qu'est-ce qu'il a, ton père ?» me dit maman. « Il me paraît bien inquiet. » Mais elle-même avait le visage altéré et sa voix tremblait un peu. Quand son mari reparut, elle leva les yeux sur lui avec inquiétude. « Bonjour, Joseph !» fit-elle devant son mutisme obstiné. « Bonjour, » répondit-il sèchement. Il m'embrassa du bout des lèvres et nous nous mîmes à table. Mon père se versa un grand verre d'eau et le vida d'un trait avant d'avoir rien mangé, acte qu'il prohibait toujours sévèrement. « Qu'as-tu donc à faire cette tête ?» questionna enfin ma mère, de plus en plus anxieuse et si agacée qu'elle en oublia de le vouvoyer, ce qu'elle considérait cependant comme le comble de la distinction. « Rien, répliqua-t-il d'une voix si nette, avec une intonation si cassante, qu'elle ferma le débat. L'air chaud entrait par la fenêtre ouverte, avec les bruits de la rue, le petit murmure gai du ruisseau. Un volet, rabattu par le vent contre le mur, fit un choc sourd. Nous sursautâmes tous. Je me souviens qu'Élise venait de nous servir un plat de viande, entouré de carottes, dont l'odeur seule eût donné faim. Maman mangeait lentement et surveillait du coin de l'œil la physionomie soucieuse et renfrognée de son mari. Il coupait son morceau de bœuf avec minutie. Il piqua quelques carottes du bout de sa fourchette et les avala en faisant un effort. Puis il repoussa son assiette pleine loin de lui. « Tu ne manges pas ?» reprit ma mère. « Non. Ce n'est pas bon ?»« Je n'en sais rien. Tu n'as pas faim ?»« Non. Tu es malade ?»« Non. » Ces paroles tombaient lourdement comme un épervier dans l'eau. Cela aurait pu se prolonger longtemps. Maman se tut. Elle aussi n'avait plus faim. Elle sonna. Élise porta un plat d'asperges. Mon père les adorait et leur saison allait finir. Quand ma mère se fut servie, elle lui passa le plat. Il le reposa sans rien prendre au milieu de la table. « Tu ne manges pas d'asperges ?»« Non. » Ma mère éclata. « Ce n'est pas possible de déjeuner dans ces conditions-là. À la fin, m'expliqueras-tu quelle mouche t'a piqué ? C'est insupportable d'avoir devant soi une pareille figure de carême. Si tu as quelque chose, dis-le. » Tu veux le savoir, soit. Je ne voulais pas te le dire si vite, mais puisque tu y tiens, voilà. » Il sortit une lettre de sa poche et la jeta devant maman. Elle était décachetée. Elle tomba du côté où il n'y avait pas de suscription. Ma mère la retourna vivement et en regardant l'écriture, devint si pâle que je crus qu'elle allait s'évanouir. Elle laissa l'enveloppe à deux pas de son assiette, sans l'ouvrir, comme écrasée de honte et n'osant lever les yeux. Elle voulut se servir à boire, mais sa main tremblait tellement qu'elle eut toutes les peines du monde à y parvenir et qu'elle versa une partie de l'eau sur la nappe. En bas, un enfant s'était mis à pleurer. Il cessa. Il y eut un grand silence douloureux. Et moi, terrifiée, j'écarquillais les yeux, regardant tour à tour mon père, ma mère et cette lettre bleue, ne comprenant pas comment la vue d'un simple papier pouvait à ce point troubler deux personnes que je croyais jusqu'ici raisonnables. « Tu peux la lire, » grommela mon père. « Ce n'est pas la peine, » murmura ma mère dont la voix tremblait. « Elle ne m'intéresse pas. » Et tout à coup, mon père eut un regard terrible. Il frappa rudement la table de son poing fermé. Les assiettes et les verres tintèrent. « Je te croyais une honnête femme, Jeanne. Sais-tu ce que tu es ? Tu... Oh, tais-toi !» s'écria ma mère, avec un geste suppliant qui me désignait. « Pas devant lui !» Il y eut un nouveau silence. Élise portait le dessert. Ma mère se leva, ramassa sa lettre et sans un mot gagna sa chambre. Mon père l'y suivit. J'entendis le bruit de la clé tournant dans la serrure. Et alors, des cris éclatèrent. Je sautai de ma chaise et courus à cette porte derrière laquelle quelque chose d'affreux sans doute se passait. Le fracas de la dispute remplissait la pièce, coupée de chocs de meubles, de pas précipités heurtant le sol. La voix de mon père, je la distinguais nettement dans ce tumulte. âpre, sèche, mordante, grondante de fureur. Celle de ma mère s'élevait par saccades, tantôt rauque, plaintive, ou s'échappant en cris de fureur, en râles étouffés, en mots hachés et sombrés dans des larmes. Les deux voix fréquemment se mêlaient, s'irritaient l'une l'autre, se harcelaient de questions, de réponses. Je comprenais de loin en loin le sens général d'une phrase. Un moment, ma mère eut une exclamation furieuse. « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai !» L'autre la dominait. « C'est toi qui mens !» Encore des sanglots, le fracas d'un objet jeté contre un mur et qui se brise avec un bruit de porcelaine. Puis, une sorte de hurlement prolongé, aigu, déchirant, plus irrité et rageur que douloureux. « Mais tais-toi donc, tais-toi donc !» clamait mon père. Et soudain, la voix de ma mère grossit comme un torrent à la fonte des neiges. Elle s'enfla, devint énorme, étouffa dans son cours furibond les paroles de son mari. Elle allait au galop, entassant des reproches. Le nom d'Irma revenait à tout instant. Je distinguais un bout de phrase. « C'est elle qui est cause de tout. Quelle vie ai-je ici ?» Je n'entendis plus rien que le roulement confus de ces phrases furieuses que coupaient des apostrophes de protestation. Ma mère cria. « Je m'en irai. Eh bien, va-t'en, ce n'est pas moi qui irai te chercher. » J'écoutais tout cela avec horreur, avec épouvante. Il me semblait assister à un cataclysme, à la fin du monde. Je tremblais, je pleurais d'angoisse. Au dernier mot de papa, j'appelais, je suppliais maman de venir. Je cognais la porte comme un démon, un pauvre petit démon sans force. Ce fut mon père qui parut, les yeux hagards, le visage congestionné. Il me repoussa rudement. « Qu'est-ce que tu fais là, petit imbécile? Veux-tu bien t'en aller? Nous n'avons pas besoin de toi. » Je hasardais une timide protestation. « Je ne veux pas. Va dans ta chambre, et un peu vite, ou je t'enferme dans la cave. » Malgré la gratuité de cette menace, je m'en fus, le cœur gros, mais pas assez vite pour ne pas entendre ma mère crier. « Lâche, tu viens d'être lâche une fois de plus, tu t'en prends à ce pauvre enfant maintenant. » Je fus plus satisfait, maintenant que cette phrase me vengeait de mon humiliation. Certes, dans cette dispute, je ne savais qui avait raison. Mon instinct, ma tendresse, un mouvement obscur me jetaient du côté de ma mère, mais mon jugement était indécis. À présent, il prenait parti. Je n'ignorais plus où était le bon droit. Il était avec ceux qui n'insultent pas un enfant qui se désespère et souffre sans rien y comprendre de ce qui se passe. Je traversais la salle à manger et me laissais tomber sur le canapé. Élise, qui desservait, s'approcha de moi. « Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Léon ?» Je fis un geste pour désigner la chambre d'où le tumulte des voix sortait toujours. « Que voulez-vous ? Ça devait arriver, » dit-elle philosophiquement. « C'est bien fâcheux, à cause de madame, tout ça. Pour monsieur, s'il est ce qu'il est, tant pis pour lui, il n'a que ce qu'il mérite. « Mais qu'est-ce qu'il est, Élise ? » m'écriai-je. Élise, comprenant qu'elle avait dit un mot de trop, ne répondit rien et regagna sa cuisine. Un moment après, une clé tarauda la serrure. Je m'enfuis dans ma chambre et j'écoutais. La porte du palier se ferma avec bruit. Qui était parti ? On n'entendait plus rien. À la fin, n'y tenant plus, je me glissai hors de ma tanière. Je courus au porte-manteau. Le chapeau et la canne de mon père n'y étaient pas. J'eus l'impression d'une délivrance. Je me mis aussitôt à gambader pour manifester ma joie et m'élançai vers la chambre dont on m'avait, peu avant, interdit le seuil. Maman était assise sur le canapé, la tête cachée dans ses mains. Elle sanglotait. Une chaleur lourde, angoissante, pénible, emplissait la chambre dont les fenêtres étaient closes. Une chaise renversée levait ses quatre pieds dans un coin, comme pour ruer. Une tasse brisée gisait en miettes devant un guéridon. « Maman !» m'écriai-je, et je me jetai dans ses bras.